Bonsoir. Politique. Plusieurs départs ont été enregistrés au front commun pour le Congo FCC en sigle, plateforme dont Joseph Kabila est autorité morale depuis la fin de la coalition FCC-CACH. Ces départs ont été observés depuis plus d'une année lors de la création de l'Union sacrée de la nation où plusieurs députés s'étaient ralliés au président Tshisekedi. Lors du récent séjour du président dans l'espace Kasaï, plusieurs cadres du PPRD et du FCC l'ont accompagné dans cette tournée. Cela a été mal interprété par une certaine opinion comme leur adhésion à l'Union sacrée de la nation. Il y a environ quelques semaines, le FCC a exclu le président du groupe parlementaire PPRD pour avoir choisi de faire partie du bureau de la CENI. Quelle lecture faire de tous ces départs enregistrés au sein du FCC? Comment cette plateforme politique peut-elle se maintenir et se positionner face aux enjeux électoraux de 2023? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce jeudi 20 janvier 2022. Participe au débat professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir aux auditeurs de Radio Capi.
Professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Professeur Dadi Salé, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir à tout le monde.
Et Christian Moleka, il est analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. On me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Mais vous, auditeurs des radios Capi, vous êtes déjà très nombreux à réagir au thème de ce soir. C'est le cas des Zedoukous à Kananga, voilà, au Kasaï central. Les politiciens congolais sont prêts à tout pour protéger leurs intérêts. Ceux qui sont restés avec Kabila sont sincères car ils sont avec lui malgré les temps nuageux qu'ils traversent. Mais ceux qui sont partis rejoindre Félix Tshisekedi le font pour protéger leurs intérêts et échapper aux poursuites. Ils savent tous que tout va mal, mais sont là pour l'enfoncer davantage. Youssouf Ali, depuis Bukavu, Sud Kivu, la politique congolaise a toujours été dynamique. Malgré ses départs, le FCC reste une grande force politique en RDC. À Kinshasa, vous nous suivez sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radio-okapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Nous le disions dans notre introduction, depuis la fin de la coalition FCC-CACH, plusieurs départs ont été enregistrés au front commun pour le Congo, FCC en sigle, plateforme dont Joseph Kabila est autorité morale. Ces départs ont été observés depuis plus d'une année lors de la création de l'Union sacrée de la nation où plusieurs députés s'étaient ralliés au président Tshisekedi. Réagissant à cela, le député national et cadre du PPRD, André Tambwe wa Katambwe, affirme que ces départs ne vont pas fragiliser le FCC que l'UDPS ne fait que puiser dans le FCC parce qu'il n'a personne capable de permettre au chef de l'État de réaliser sa vision. On l'écoute au téléphone de Louange Vangou.
Ma réaction ressemble à celle de tous les Congolais qui constatent avec amertume que les défauts qui étaient imputés autrefois à la famille politique de Joseph Kabila à l'époque de la coalition étaient tout simplement une hallucination de l'UDPS. Parce que on se rend compte qu'une année après la rupture de cette coalition, ils n'ont rien trouvé du potentiel gouvernant dans leur famille politique. Il ne faut que puiser dans la famille politique de Joseph Kabila qu'ils ont doigté à l'époque de la coalition. Donc, ça prouve que à l'UDPS et comme dans la famille politique du président Félix Antoine Tshisekedi, il n'y avait pas de carrure bien placée pour l'aider à gouverner. Et que jusqu'à présent, il ne fait que patauger, il ne peut que recourir à ceux qu'il a injuriés autrefois.
Nous approchons déjà 2023, qui est une année électorale. Ne pensez-vous pas que ces départs vont fragiliser le FCC?
Non, au contraire, ces départs ne font rajeunir l'énergie agissante et politique du FCC et par conséquent peut promettre beaucoup plus de succès aux échéances à venir que leur présence parce que au FCC ils se sont apparus plus ou moins improductifs parce que nous avons perdu le présidentiel. Vous vous rappelez, et à 2018, c'est avec tous ces caciques-là que nous avons perdu. Autrement dit, ils étaient à bout de stratégie et qu'il était temps que la nouvelle énergie, la jeunesse est plus devenue de plus en plus au centre de la décision au niveau de la famille politique de Joseph Kabila pour permettre une nouvelle émulation et par conséquent de nouveaux succès dans la sphère politique.
Professeur Bob Kabamba, je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Liège en Belgique. Vous êtes coordonnateur, vous êtes également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. 2023, année électorale. Ce soir, nous faisons un focus sur le FCC, plateforme de Joseph Kabila qui a enregistré plusieurs départs depuis la fin de la coalition FCC-CACH. Professeur, quelle lecture vous faites de tous ces départs enregistrés au sein du FCC?
Merci pour l'invitation, merci aussi pour la question. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle politique au Congo, c'est qu'on parle des hommes politiques, mais on ne parle pas de partis politiques. Donc, d'une manière très claire, c'est qu'on insiste beaucoup plus à ce qu'on peut appeler un conglomérat des individus qui constituent ce qu'on pourrait appeler un parti politique ou un regroupement politique. L'homme politique congolais, il faut bien connaître l'homme politique congolais, c'est pour le définir comme un entrepreneur politique. C'est-à-dire qu'il a une base et il se définit d'abord comme un chef de tribu. Chef de tribu, c'est-à-dire qu'il s'est fait élire par les siens. Il est en même temps homme d'affaires, c'est-à-dire qu'en puisant au niveau de l'État, il essaye de faire des affaires. Il est en même temps l'assureur, il est en même temps l'employeur. C'est-à-dire que l'homme politique, quand il est politicien congolais, il a tout autour de lui une espèce de tribu, de clan, sur lequel doit entretenir. Et pour l'entretenir, il a besoin de ressources pour pouvoir l'entretenir. Et ces ressources, il les puise où? Il les puise essentiellement dans les caisses de l'État, dans le fonctionnement donc de l'État. Il ne touche pas à son argent, mais il touche à l'argent qu'il a par ses fonctions, par son positionnement au niveau du politique. Et alors, lorsque vous n'êtes plus en place, vous n'avez plus accès aux ressources de l'État, les ressources se tarifent. Et lorsque les ressources se tarifent, votre entrepreneuriat politique aussi, c'est arrivé. Alors, lorsque vous résistez au niveau de sans poste, sans positionnement, alors vous continuez progressivement à disparaître de la scène politique. Alors, la seule façon de pouvoir rebondir, c'est de pouvoir aller là où on peut espérer avoir des ressources qui va permettre de pouvoir entretenir effectivement sa tribu, entretenir tous les gens qui tournent autour de généralement autour de ces hommes politiques. Alors, de cela découle le fait qu'on a ce qu'on appelle le vagabondage politique. Je vais là où je peux avoir des ressources qui me permettent de pouvoir entretenir ma tribu, entretenir ma base, entretenir tous les gens qui sont tout autour de moi. Alors, ça c'est vraiment le premier critère qui fait en sorte que on assiste du fait que Kabila n'est plus au pouvoir. La plupart des gens qui étaient avec lui, qui mangeaient, c'est le terme véritablement que l'on peut dire, qui mangeait avec lui en gérant le pays, du fait que Kabila ne gère plus, donc ils ne savent plus manger. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont de ce côté en espérant qu'ils vont aller manger du côté donc du pouvoir. Et le même phénomène, on l'avait déjà vu au niveau des groupes armés. C'est-à-dire que lorsque l'on voulait avoir une politique, qu'est-ce qu'on faisait? On créait un groupe armé et on a parti du groupe armé avec la réinsertion des mobilisations. Là, on espérait aussi pouvoir arriver à avoir des postes politiques. Donc ça, c'est malheureusement le constat manifeste de ce que le vagabondage politique devient, entre guillemets, le mode de fonctionnement du système politique congolais. Il ne serait même pas étonnant si, après 2023, il y a quelqu'un d'autre, ou bien un autre parti, ou bien un autre président de la République, et vous allez voir que là aussi, vous allez avoir ce qu'on appelle la transhumance, les gens qui vont quitter, par exemple, ici, l'Union Sacrée, pour aller rejoindre celui qui aura gagné les élections, aux prochaines élections.
Donc, les politiciens congolais sont prêts à tout pour protéger leurs intérêts, comme l'a dit cet auditeur, Zé Doukous, qui nous a écrit depuis Kalanga, au Kasaï central.
Oui, tout à fait, parce que alors, quand on parle des intérêts, justement, parce que c'est ça que j'appelle le manger, ce que j'appelle le manger. Alors c'est ça leur intérêt. L'intérêt, c'est de pouvoir, de manière claire, avoir accès aux ressources que l'État procure. Alors lorsque vous voulez avoir accès aux ressources de l'État, bah, c'est essentiellement être avec celui qui est là. Alors vous faites fi de l'idéologie, vous faites fi de votre parti politique, vous faites fi de tout ce que vous pouvez imaginer, pour avoir accès aux ressources de l'État et ainsi continuer à être cet entrepreneur politique espérait ainsi continuer à exister au niveau politique dans l'espace politique congolais.
Professeur, il y a certains cadres du PPRD et même du FCC que nous avons contactés qui estiment que ce n'est pas parce que le FCC a perdu le pouvoir qu'ils se sont retrouvés à l'Union sacrée aujourd'hui, mais c'est à cause des frustrations qu'il y a eu au sein du FCC, un groupe d'individus qui géraient les FCC au détriment des autres partis politiques que composait cette plateforme de Joseph Kabila.
Oui, c'est que quand on regarde effectivement le FCC, on se rend bien compte que c'est un conglomérat, comme je l'ai expliqué, de toute une série de personnalités, et que chaque personnalité a plus ou moins un parti politique, ou bien certains qui ont des partis politiques et qui constituent ce qu'on a appelé le FCC. Et la gestion des égos des uns et des autres au sein de cette plateforme politique est aussi un autre facteur qui compte toujours mettre en avant. Et le même phénomène que l'on observe au niveau du FCC va aussi se représenter au niveau de l'Union sacrée. C'est-à-dire que nous allons avoir une espèce de guerre des égos des uns et des autres personnalités qui vont constituer l'Union sacrée, va faire en sorte qu'il puisse y avoir des frustrations. Alors la même logique, quand on parle de frustration, pourquoi on parle de frustration? On parle de frustration parce que au sein de la dynamique politique, il y en a ceux qui mangent plus que d'autres. Et celui qui mange moins est frustré par rapport à celui qui mange plus. Et c'est un phénomène que l'on découvre dans tous les systèmes politiques, dans tous les partis politiques. Alors la différence qu'il y a, c'est que quand les guerres arrivent au moment où vous avez perdu les élections, on essaie justement de chercher les coupables. En disant, maintenant on a raté les élections, c'est à cause de tel, c'est à cause de tel. C'est comme ça qu'on a cette division qui sont en train de s'éclater au grand jour au sein du FCC.
Est-ce que tous ces départs risqueraient de fragiliser le FCC, prof Bob Kabamba, ou ça a déjà fragilisé le FCC?
Ça a déjà fragilisé depuis quand même la fin de la coalition. On a déjà coalisé du fait que l'interprétation que l'on a donnée de la fin de la coalition, c'est que c'est le cash qui a réussi, entre guillemets, à mettre dans l'opposition le FCC. Alors, de ce fait, déjà, à partir de ce point-là, le FCC était déjà fragilisé. Alors, si vous regardez très bien par rapport à le contexte de l'histoire politique de cette dernière semaine, vous allez vous rendre compte que lorsque le FCC était en coalition avec avec Cash, il y avait déjà, au niveau du FCC, des gens qui étaient frustrés du fait qu'il n'y avait pas suffisamment de postes à pourvoir pour les gens du FCC. Donc il y a une bonne partie du FCC qui, dès le départ, avait déjà, entre guillemets, était déjà frustrés du fait qu'ils, de manière directe au pouvoir, donc ils ne mangeaient pas directement comme c'était le cas auparavant. Et donc c'est à partir de ce moment-là que l'on a déjà commencé, effectivement, qu'il y a, de manière très claire, que la fragilité au niveau du FCC. Mais alors, ça ne veut pas dire que si le FCC est fragile, ça ne veut pas dire non plus que le FCC ne va plus exister. Mais je pense que le FCC va exister du fait qu'il y a toujours ce qu'on appelle un espace d'opposition dans l'espace politique congolais. C'est-à-dire qu'on a des promesses, on a des endroits où il n'y a pas de résultats, de changements que la population congolaise attendait. Alors, ces populations et cette opinion restent toujours, ce qu'on va dire, opposées au système politique actuel. Et donc, le FCC peut encore bénéficier d'un certain aura en captant toutes ces voix de l'opposition. Et c'est toutes ces voix de l'opposition qui sont encore là, qui vont se positionner, qui doivent se positionner, qui vont se positionner. Et donc, de manière aussi claire, c'est que l'espace politique ne peut pas totalement être occupé par l'Union sacrée. Oui, le FCC est fragilisé, mais non, on ne peut pas dire que le FCC soit mort, puisqu'il y a encore une possibilité d'occuper un espace politique qui est encore disponible.
Professeur Dadi Salé, docteur et spécialiste en développement pour les pays du Sud et enseignant dans plusieurs universités et instituts supérieurs de la RDC et d'Afrique. Votre lecture, professeur, par rapport à tous ces départs enregistrés au sein du FCC?
En soutenant l'analyse du professeur Bob, je vais juste essayer d'augmenter quelque chose. Le FCC a nécessairement perdu sur le plan d'abord de forme, parce qu'il a perdu des députés, et c'était un regroupement parlementaire. Donc, on prend l'essence d'abord du FCC. Ce n'est pas un parti politique, mais c'était un regroupement parlementaire au profit, effectivement, de sénateur Joseph Kabila. Donc, j'ajoute un peu quelque chose sur cet avis des sénateurs. Le FCC a perdu net, clair. Maintenant, est-ce qu'il a perdu maintenant cette bataille politique? C'est là où je dis non. absolument pas. Le FCC n'a pas perdu la bataille politique. Pourquoi? Parce que et les cash aussi s'est affaibli. Même s'ils sont au pouvoir, ils se sont un peu affaiblis. Selon moi, je pense que l'UDPS s'est affaibli par rapport à sa position avant les élections. Ça, c'est par rapport un peu à la population. Même s'ils sont au pouvoir, ils se sont affaiblis parce que déjà les animateurs des UNC, qui étaient son partenaire principal, n'ont plus confiance, malgré qu'ils doivent rester, comme le prof l'a dit, à la mangeoire et que ça va faire. Mais maintenant, ce qui m'intéresse plus dans cette analyse, c'est qu'il faudra que nous puissions comprendre la structure politique de l'Afrique et du Congo en particulier. Au fond, la structure politique, comme le professeur l'a constamment, est déjà biaisée. C'est un peu, effectivement, dès le départ en 1960, nous avons des partis à Bakou, etc. Donc des partis à Trasset, puis pas le Smith. Donc, les néocolonialistes ont piégé la structure politique d'Afrique et de la RDC. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu un leadership fort pour que nous puissions sortir de ce piège-là. Lumumba a essayé, mais malheureusement, il est mort et il n'y a pas eu vraiment de suite. Laurent Désiré Kabila a essayé, mais malheureusement, il est vite mort aussi. Mais tout ce que nous constatons, si nous prenons Mobutu, c'est-à-dire effectivement que le régime, pendant plus de 32 ans, s'était concentré sur une autorité morale, donc sur un individu. Et effectivement, il y a, comme le peuple a dit, sa tribu ou bien son clan ou bien des gens qui sont là pour l'intérêt, un intérêt assez égoïste pour eux-mêmes, mais ce n'était pas nécessairement un intérêt pour la population. On a eu la même chose avec les régimes de Kabila, donc c'est où le regroupement c'était pratiquement pour l'intérêt, je gagne quoi et je perds. Et ça n'avait rien à voir avec la population gagne quoi.
Et donc les hommes politiques congolais, on peut dire, professeur Dadi Salé, qu'ils adhèrent aux partis politiques ou à des regroupements politiques pour se faire une petite santé financière et non par rapport à la vision même ou l'idéologie du parti.
Oui, tout à fait. Malheureusement, mes propres enquêtes prouvent suffisamment. On a 97% des partis politiques qui n'obéissent qu'aux autorités morales et que si vous n'avez pas des postes, comme les Aïrs, après que Mobutu soit sorti, et un peu tous qui sont partis, pratiquement. Jusque là, les cadres du FCC résistent encore un peu, parce qu'il y a eu un peu ces bicéphalismes au départ entre cet accord-là, entre le FCC et les CACH, qui a retenu certains membres du FCC. Ça, c'est sûr. Donc, le FCC n'avait pas perdu totalement le pouvoir. Même que là, le FCC n'a pas perdu totalement le pouvoir, parce qu'il y a quand même des membres qui continuent à se reconnaître,
Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a quand même des têtes pensantes du FCC qui ont quitté la plateforme pour rejoindre Félix Tshisekedi.
Tout à fait. Ce qui fait qu'ils peuvent le faire encore après 2, 3, 4 jours si les financiers à vie, qui est l'autorité morte du FCC, s'est réorganisé. Donc ce sont des gens, effectivement, comme le pauvre là encore, qui ne veulent pas perdre des avantages parce qu'ils doivent tenir un système où ils doivent gérer des tribus, etc. Mais ce n'est pas gérer le pays. Donc, nous sommes dans une structure politique totalement biaisée, où ces histoires d'autorité morale, il y a des gens qui ont pris en otage le pays. Ça, c'est clair, noir sur blanc. C'est qu'effectivement, ils n'avancent qu'à se gérer d'une façon immédiate. Je gagne quoi? Est-ce que je gagne des postes? Ils sont rares, effectivement, qui résistent dans ça. Il faut dire que certaines personnes ne sont pas parties. Parce qu'ils n'ont pas été, elles n'ont pas été aussi appelées. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on est resté dans le FCC qu'on est loyal, entre guillemets, à l'idéologie de son fondateur qui est Joseph Kabila. C'est parfois certains qui n'ont pas été appelés parce qu'ils n'étant pas des terres où il y a déjà pléthore au niveau des caches. Donc là, j'ai montré un peu cette structure chaotique de la République. Et où ça dépend aussi un peu du néocolonialisme. Maintenant, nous avons les systèmes politiques. Les systèmes politiques et aussi la constitution. Ça semble être biaisé parce que le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, cette indépendance ne semble pas être respectée. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'effectivement, tout le monde sachant que le président peut ou n'est pas respecter la constitution, et il a sous ses bottes en grande partie les pouvoirs législatifs, donc la constitution n'est pas respectée, alors certains politiciens se lâchent un peu. Ils ne veulent même plus faire le vrai combat, les combats un peu du peuple gabon. Donc ils se lâchent, ils se mettent dans ce qu'ils appellent dynamisme politique. Non, moi j'appelle ce que souvent on appelle dynamisme politique, escroquerie politique, escroquerie populaire. Donc on a au moins des gens m'en fous un peu de la population, il faut qu'ils puissent rester au pouvoir. Nos enquêtes ont prouvé que 97% de partis politiques ont des autorités morales. C'est-à-dire quoi? Des gens qui eux décident. À vrai dire, les autres ne sont que des suiveurs dans ces partis politiques.
Professeur Dadi Salé, oui. On vous capte un peu difficilement. La réalisation essaie de vous appeler. En attendant, on va prendre Christian Moleka, qui est analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Christian Moleka, bonsoir.
Bonsoir.
Depuis la fin de la coalition FCC Cash, on a enregistré ou on enregistre plusieurs départs au sein du Front commun pour le Congo. Comment vous analysez tous ces départs au sein de la plateforme de Joseph Kabila?
Bon, je crois qu'il faudrait analyser ces départs de deux façons. D'abord, en tenant compte d'une dynamique interne, d'une dynamique internationale. Sur le point de vue de la dynamique internationale, il y a un environnement international qui n'est plus favorable au système FCC. Et qui fait que son autorité morale, en passant l'ancien chef d'État, Joseph Kabila, est de plus en plus effacée dans le jeu politique intérieur. Il s'y prononce presque jamais sur les questions intérieures. Et son mutisme n'offre pas à ceux qui sont autour de lui comme acteurs de perspective en termes d'avenir politique. Et donc, vous avez un leader qui était le cœur du système politique, qui devient muet, qui ne parle pas, qui ne présente pas de perspective d'avenir parce que l'environnement national certainement ne le favorise pas. Et donc, il laisse dans l'incertitude ses collaborateurs majeurs et qui donc chacun face à cet environnement-là se repositionne par rapport aux intérêts. Maintenant, dans la dynamique interne, c'est que le FCC s'est affaibli avec cette histoire de l'Union sacrée. L'affaiblissement, il est stratégique, c'est vrai, parce que beaucoup de ceux qui ont géré avec Kabila ont des dossiers dans les tiroirs et donc les menaces de l'IGF, les pressions sur les dossiers judiciaires de certains ont dû dissuader même les plus solides, soit dans la zone de l'Union sacrée, soit à subir une justice plus ou moins instrumentalisée. Et donc, beaucoup se sont résignés, soit à raison de la nouvelle dynamique, parce que la transhumance politique au Congo, c'est une des cultures développées, parce qu'il faut rester dans les capacités à capter les ressources publiques pour subvenir politiquement à ses besoins, à subvenir sa base électorale, pour se protéger politiquement face à un système qui de plus en plus devient agressif contre vous. Et donc beaucoup ont décidé de traverser. Et puis parce que la perspective politique n'est plus ou moins assez viable vis-à-vis de votre leader d'hier, beaucoup ont pris le courage de traverser et quelques-uns sont restés. Peut-être parce qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, peut-être parce qu'ils peuvent tenir dehors, ils sont donc restés avec l'ancienne autorité morale. Donc, de mon point de vue, c'est cette évolution à la fois interne et internationale qui justifie pour certains cette transhumance-là. Et donc, on a une classe politique qui a pour culture la transhumance et qui va toujours vers ces zones de captage des ressources qu'est le pouvoir. Et donc, lorsque le pouvoir migre, beaucoup migrent vers le nouveau centre de pouvoir.
Selon vous, le FCC est affaibli aujourd'hui. Il sera difficile pour le FCC de rebondir aux prochaines échéances électorales. Christian Moleka?
Bon, en politique, rien n'est impossible. Déjà, de mon point de vue, ils ont quand même gagné une carte, même si ce n'est pas ce qu'on dit officiellement. La dissidence du FCC qui a rejoint la CENI est quand même une dissidence qui permet au FCC d'avoir une sorte de représentant dans le nouvel appareil électoral. Et donc, ce n'est pas la voie officielle, parce que la voie officielle, on rejette les processus, mais peut-être en seconde main, on a récupéré le fauteuil qu'on aurait pu perdre en ayant des dissidents à l'intérieur du système. Donc, c'est une façon pour le système, en quelque sorte, de préserver des intérêts, malgré que dans un discours officiel, on ne s'identifie pas à la CENI qui se met en place. Deuxièmement, il faudra trouver un candidat qui pourra porter les ambitions de la plateforme au plus haut niveau, notamment présidentiel. Le président sortant aura forcément un défi avec son statut de sénateur à vie, pourra amener demain un débat d'interprétation au niveau de la Cour constitutionnelle, en premier la composition de la Cour constitutionnelle, qui est plus proche du président actuel, et qui probablement pourrait déclarer le candidat non éligible. On a commencé à miroiter pendant un temps la participation possible de l'ex-première dame Olive Lembe. On a vu les dossiers EGAL, le Congo Hold-Up, qui ont également participé à fragiliser en quelque sorte son image. Donc ils ont besoin de construire un leadership qui peut incarner les perspectives à venir. Mais en même temps, il y a des éléments qu'il faut prendre en compte. C'est que Kabila a 50 ans et qu'il a les capacités de tenir dehors financièrement pendant 10 ans un réseau d'influence internationale parce qu'il a dirigé pendant 18 ans, et donc il peut travailler dans la durée, pas forcément sur 2023. Parce que à chaque fois que le système actuel ne réussira pas à donner de bons résultats, les Congolais auront tendance à rechercher dans le passé peut-être des éléments de réussite qu'il a pu mener. Et donc dans la durée, dans une perspective de plus de 10 ans, ça peut lui être profitable, peut-être pour pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de promouvoir de nouveaux visages, des jeunes. Dans les dernières nominations, cette année, on a mis beaucoup de jeunes qui peuvent porter un projet plus long qui dépasse la perspective de 2023. Et voilà, c'est une façon de revoir le jeu politique, mais pas forcément à court terme.
Alors, il y a cet auditeur Z qui pense que ceux qui sont restés avec Joseph Kabila aujourd'hui sont sincères car ils sont avec lui malgré les temps nuageux qu'ils traversent. Mais ceux qui sont partis rejoindre Félix Tshisekedi le font pour leurs propres intérêts et échapper aux poursuites.
Bon, il est difficile de mesurer la sincérité des gens. Ce que par contre vous dire, c'est que ceux qui ont peut-être rejoint aujourd'hui ont estimé que la lisibilité politique de l'avenir du CC n'était plus claire. Et c'est en besoin de perspectives, ils ont rejoint la nouvelle dynamique. Ou simplement, ils étaient en position de vulnérabilité parce qu'il y a des dossiers judiciaires contre eux et que la meilleure façon de se couvrir, c'est de rejoindre la nouvelle dynamique. Ou peut-être qu'ils estimaient que le leadership de Kabila a touché à sa fin et que par besoin de transhumance politique, ils ont transhumé. Ou inversement, ceux qui sont restés, ça ne veut pas dire qu'ils sont les plus fidèles. Peut-être qu'ils estiment qu'ils ont fait beaucoup de mal à l'opposition dans le temps et qu'en allant là-bas, ils ne se trouveront pas. Il y a une autre dynamique qu'il faut prendre en compte, c'est que ceux qui ont rejoint l'Union sacrée ne sont pas tous retrouvés. Il y a une nébuleuse dans la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée. À telle enceinte, même ceux qui ont rejoint l'Union sacrée ne savent pas vous dire c'est quoi la coordination, comment on fait pour se retrouver, et donc les ambitions sont pratiquement en berne. Donc ça ne donne pas suffisamment de raisons pour ceux qui étaient restés de traverser, parce que ceux qui ont traversé ne se sont pas éventuellement également tous retrouvés politiquement. Donc il y a des raisons de trouver des raisons. Et puis il y a une autre facette qu'il faut ajouter, c'est que si dans le passé nous avions un nouveau pouvoir, un cœur, qui avait les capacités d'aimanter les acteurs politiques parce qu'ils avaient les ressources financières, la particularité de l'alternance d'aujourd'hui, c'est que nous avons des oppositions qui disposent également des ressources et des capacités d'entretenir des élites, que ce soit Moïse Katumbi ou Joseph Kabila. Ils ont les capacités d'entretenir des politiciens sans être au pouvoir, et donc il est capable de maintenir un certain nombre d'acteurs autour de lui en l'entretenant pour qu'il ne revienne pas le nouveau cœur de Félix Tshisekedi. Si à l'époque du maréchal Mobutu ou à l'époque de Kabila, on pouvait aspirer les gens de l'UDPS parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers pour tenir dehors, aujourd'hui, ce scénario-là, il est moins probable. Donc c'est l'autre corde qu'il faut jouer, et non pas uniquement sur les velléités de nomination ou de trébandes qu'on peut donner. Donc c'est un système nouveau qu'on est en train d'expérimenter, et il peut aussi justifier les faits que j'adore pas rester.
Professeur Bob Kiabamba, comment cette plateforme politique peut-elle se maintenir et se positionner face aux enjeux électoraux de 2023?
Oui, c'est vraiment une bonne question que vous posez là. C'est que depuis, on a observé, donc depuis 2006, depuis les premières élections, on va dire, après la guerre de RCD, FDL et compagnie, quand on observe effectivement, on peut regarder, il y a toujours ce qu'on appelle l'espace congolais, a toujours été dominé d'abord par celui qui a le pouvoir, et celui qui a le pouvoir essaye de faire face politique. Malheureusement, il n'y arrive pas. Pour y arriver, il faut qu'il fasse des politiques qui répondent aux attentes de la population. Alors, les attentes de la population, c'est quoi? Les questions sécuritaires, les questions économiques, les questions d'éducation, les questions sociales, que la population attend. Or, quand le pouvoir n'arrive pas à répondre à ses préoccupations, alors celui-là, et donc, il n'a pas la capacité de pouvoir occuper tout l'espace politique. Et ce qui fait que, depuis 2006, on a toujours eu un espace qui est composé des gens qui sont contre le pouvoir, parce que tout simplement, le pouvoir n'arrive pas à répondre à ses attentes. Et donc, cet espace-là, il est toujours plus important que l'espace du pouvoir. Alors, pour le FCC, de manière très claire, qui veut se repositionner par rapport aux prochaines échéances, si ces élections sont organisées. Et donc, ça sera de pouvoir essayer d'occuper, effectivement, cet espace que le pouvoir va laisser. Et par ailleurs aussi, c'est qu'en regardant de manière très claire comment les choses sont en train d'évoluer, on se rend bien compte que l'espace du pouvoir actuel est en train de se réduire au fur et à mesure que l'on s'approche des échéances électorales. Lorsque l'on regarde les questions sécuritaires, vous allez vous rendre compte que les populations, par exemple, de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui souffrent effectivement des questions sécuritaires et sur lesquelles le pouvoir n'arrive pas à apporter des réponses, alors ces populations-là ne vont pas être dans l'espace politique du pouvoir. Donc, ils seront, de manière très claire, au niveau de l'opposition. Vous pouvez prendre aussi tous les cas, les problèmes sociaux que l'on connaît actuellement au Congo, les problèmes des salaires, les problèmes de santé, etc. Mais tous ces problèmes-là, comme il n'y a pas de réponse, et donc vous allez avoir qu'il y a un espace politique qui est disponible et sur lesquels il y a une possibilité que cet espace soit occupé par d'autres que le pouvoir. Et donc ça, c'est une manière vraiment très claire que il y a cet espace qui peut être occupé par aussi bien les Français que par d'autres. Il n'y a pas que, là, tout à l'heure, mon collègue a parlé de Moïse Katumbi. Oui, si Moïse Katumbi, on ne sait pas s'il va rester ou il va rester à l'Union Sacrée ou bien il va se positionner en dehors de l'Union Sacrée, il va aussi tenter de pouvoir occuper tout cet espace qui va être vacant. Le cas aussi de Fayoulou, par exemple, qui aussi va essayer d'occuper l'autre espace qui sera toujours vacant. Et donc, ça ne sera pas uniquement un combat facile pour les FCC. Il y aura aussi d'autres concurrents au FCC qui vont essayer de se positionner sur cet espace qui est toujours, comme je l'ai dit, beaucoup plus important que l'espace occupé par le pouvoir.
Professeur Dadi Salé, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga.
Moi, c'est M. Roméo Kitouba. Je vous appelle à partir de la province du Haut-Katanga, précisément dans la ville de Lubumbashi. Les départs enregistrés au sein du FCC sont dus au fait que la plupart des politiques congolais ne sont pas constants, quand bien même la politique est dynamique. Or, en politique, la constance est une preuve de maturité. Cette transhumance enregistrée ces derniers temps est un signe d'immaturité politique, de clientélisme par peur de faire l'opposition. Ces députés qui ont accompagné les chefs de l'État dans l'espace Grand Kassai l'ont fait par solidarité régionale, ce qui n'est pas un bon signe dans un pays qui se veut démocratique. Bref, ils font la politique du ventre. Je recommande au FCC de faire le ménage à son sein, car il y a beaucoup d'hypocrites politiques qui changent de position comme des linges. Pour se positionner face aux échéances de 2023, le FCC doit laver sa mauvaise image de sa gestion passée de 18 ans, faire des propositions, des suggestions, des recommandations au gouvernement, ainsi qu'un bon contrôle parlementaire, tout en ayant de bonnes intentions pour le pays.
Professeur Dadi Salé, brève réaction.
Oui, le député a tout à fait raison sur toute la ligne selon moi, et non seulement qu'il démontre qu'il y a une sorte d'inconstance et immaturité politique, c'est-à-dire que le président sénateur à vie l'avait même dit, il n'était pas bien entouré, il manquait même 15 personnes, on se souviendrait de ça, et que effectivement c'est un constat. Maintenant, il parle un peu du réaménagement du FCC ou bien d'un parti politique contrôlé par le sénateur à vie. C'est tout à fait vrai, parce que il a une chance de le faire, mais il ne peut pas se baser sur effectivement le même personne et individu qui ne lui ont pas permis de réussir, selon moi, ses 18 ans au pouvoir, d'une façon un peu criante. Il n'a pas assez réussi, il lui-même l'a dit, il n'est pas arrivé à changer l'homme congolais et les sociales ne s'est pas amélioré. Donc, s'il veut avoir une chance de rebondir sérieusement, et il en a, je peux vous l'assurer, je vais dire pourquoi tout à l'heure, il en a, il doit franchement travailler dans sa politique pour l'intérêt du peuple, il en a les moyens par rapport à l'expérience qu'il a acquis, il est encore jeune, il a des ressources plus ou moins acceptable, il a des contacts, donc il peut refaire totalement une nouvelle stratégie pour conquérir le pouvoir, mais ça ne sera pas avec le maillon fort des gens avec qui il est allé. Ça, c'est sûr et certain. Et pourquoi est-ce que c'est possible au FCC de rebondir? Tout simplement, comme certains amis viennent de le dire. Mais effectivement, on ne connaît pas, par exemple, la position de Katumbi. Est-ce qu'il est de la majorité? Est-ce qu'il est de l'opposition? C'est-à-dire que cette position non plus ne donne pas une très bonne force à Moïse Katumbi, qui devait, par exemple, mieux s'exprimer et savoir qu'est-ce qu'il veut exactement. Ce qui fait qu'il perd une petite part de la population. Déjà pour le président Félix Tshisekedi, on sent effectivement que même dans son propre sein, il y a tellement de problèmes qu'il n'arrive pas à resserrer les rangs. Parce que tous ces gens avec qui il s'allie, les AAB, les etc., AFDC, on sait très bien que, comme ça a été dit un peu avant, ben eux ne vont aller que là où ils vont sentir qu'on peut mieux manger. Parce qu'il a l'avantage, mais il ne s'organise pas assez. Ce qui fait que Fayoulou, jusque-là non plus, n'arrive pas assez à s'organiser au niveau national. Moi, personnellement, je descends plus à Kinshasa, mais ailleurs, avoir le fait que il était un candidat très important et peut-être celui qui était passé comme président, n'est-ce pas? Mais on ne le sent pas, surtout en province et ailleurs. Il est presque pratiquement fort à Kinshasa. Donc, je me pose des sérieuses questions. Est-ce qu'il a des ambitions vraiment pour
postuler aux élections et espérer gagner. Je ne le sens pas personnellement.
Alors là, on parle du FCC. On organisera un autre débat sur la coalition Lamouka, professeur Dadi Salé. Alors on vous garde, on va vous redonner la parole pour votre conclusion. Christo Moleka, on va prendre aussi pour vous cette réaction que nous vient de Bukavu.
Madeleine Kakoumbo Jules, je vous appelle depuis la ville de Bukavu. Le départ de certains cadres du FCC montre qu'ils n'étaient pas loyaux au sein de cette plateforme. Donc ils ont juré la loyauté au FCC et à leur autorité morale. Les actes qu'ils ont posés montrent qu'ils étaient au FCC juste pour chercher les postes au gouvernement de la coalition. C'est une opprobre que l'homme politique congolais montre à la face du monde. Oh, je pense que la politique que joue l'homme politique congolais ne donne aucune leçon aux futures générations. Nous pouvons dire que la classe politique congolaise est remplie des opportunistes qui changent le camp après chaque changement du pouvoir. Le FCC doit rester déterminé pour voir si il peut convaincre le peuple congolais de leur bilan, qui est à mon avis aussi chaotique. Car le départ de plusieurs de ses membres ne donne aucune garantie de la victoire de Félix Tshisekedi en 2023. Je pense que le peuple congolais votera avec une carte rouge en 2023 en tenant compte du bilan de chaque camp politique.
Christian Moleka, que pensez-vous de cette réaction de Jules depuis Bukavu?
Il y a des choses que je partage, notamment en termes de qualité d'homme. Nous avons un problème de conviction. On a très peu d'hommes de conviction au Congo. On a davantage d'acteurs motivés par l'opportunisme politique et très peu d'hommes de conviction. Sur ce point-là, je suis d'accord avec lui. Par contre, concernant l'avenir du FCC, il y a des questions qui ne trouvent pas de réponse. Par exemple, il y a une crise qui couvre encore au sein du PPRD, la première formation politique du FCC, au niveau de son leadership à l'extérieur, qui ne trouve pas de solution, malgré un comité de crise qui a été mis en place depuis une année. Il y a certes une volonté de rajeunir l'élite, de renouveler les dirigeants avec beaucoup de jeunes, mais il y a un discours à construire. Est-ce qu'il y a un discours aujourd'hui que l'FCC peut porter et qui peut convaincre les Congolais sur ses nouvelles perspectives qui s'éloignent de ce qu'il a fait hier? S'ils arrivent à construire un discours qui peut capter les Congolais, ce serait peut-être pour eux l'occasion de revenir sur la scène politique. Mais c'est un grand défi parce qu'ils sont en train de porter un lot passif de 18 ans que beaucoup de Congolais, certes, n'ont pas oublié, mais qui est peut-être amoindri à cause des erreurs du régime d'aujourd'hui et du fait qu'en 3 ans, le régime n'a pas permis d'offrir des perspectives meilleures que ce qu'on avait dans le passé. Mais tout dépend à la fois, oui, du réveil des Congolais, et les Congolais ont toujours voté, ça dépend également du fait que les élections permettent de respecter la sincérité des votes. Parce qu'il ne suffit pas d'exprimer sa colère dans l'urne, encore faut-il que les résultats publiés soient conformes à la volonté exprimée par la population.
Professeur Bob Kabamba, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette réaction qui nous vient de l'Ikasi dans le Haut-Katanga.
Ronald et autres personnalités, Serge Tshibangu, j'appelle depuis la ville de l'Ikasi dans la province du Haut-Katanga. Lors de la création du FCC, ses membres avaient signé une charte de loyauté autour de l'autorité morale, Joseph Kabila. Nous constatons une incompréhension. Je rappelle que le FCC n'a rien jusqu'à présent perdu. L'Union sacrée de la nation n'est pas une plateforme, c'est une vision du chef de l'État. Peut-être demain ou après-demain, on peut tourner la page. Je trouve pas étrange si un sénateur, un député national et autres personnalités accompagnent les chefs de l'État dans leurs fiefs respectifs. Même si ils ne sont pas d'une même famille politique, c'est une fierté, une harmonie politique, parce que nous ne sommes pas ennemis en politique, mais nous sommes adversaires. Je rappelle ici que le FCC n'a rien perdu jusque-là, même si X et Y partaient. Ce qui est important est que la dynamique est déjà créée. Elle se suivra avec ceux qui viendront. Il y a encore un espoir à vivre au FCC.
Professeur Bob Kabamba, il y a encore un espoir pour le FCC de pouvoir rebondir. Vous l'avez dit dans votre analyse de tout à l'heure. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Serge Tshibangu?
Oui, donc je pense que Jean-Pierre Tshibangu avait juste en disant que le FCC n'est pas encore mort, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et néanmoins, je voudrais quand même aussi souligner un aspect qui est important qu'on n'a pas encore dit, c'est que il y a toujours malheureusement dans la vision du politique, dans la vision de l'opinion publique congolaise, c'est que pour avoir de l'argent, pour avoir de la richesse, il faut faire de la politique. Alors pour faire de la politique, il faut être politicien pour avoir de l'argent. Et ce système-là fait en sorte que tout le monde veut absolument créer un parti, tout le monde veut devenir politicien parce qu'il y a l'espoir de pouvoir avoir de l'argent. Alors c'est ce système-là qu'il faut aussi casser. Et lorsqu'on parvient à casser ce système, comment on peut le casser? En changeant uniquement de mode d'élection et non plus de plus, par exemple, avoir des candidats tribaux, c'est-à-dire que je suis élu par ma tribu et je monte à une certaine par ma tribu, et de cela, en cassant ce lien qu'il y a entre le député et sa tribu, en élargissant par exemple la circonscription électorale, là on parvient à casser ça. Je donne aussi un autre exemple, c'est qu'au Nigeria, on a eu le même cas au Nigeria avec le lien politique-richesse, c'est que le président Obasanjo est arrivé à casser justement ce lien politique-richesse, ou en faisant quoi? En diminuant les salaires des aussi bien de tous les députés que des ministres, et en favorisant l'entrepreneuriat privé. Et cet entrepreneuriat privé a permis justement à ce que l'on puisse arriver à avoir des milliardaires au Nigeria, alors qu'au Congo, on manque encore d'arriver à avoir des millionnaires. La plupart des millionnaires que l'on a, on peut dire que ce sont des millionnaires politiciens, et pas nécessairement des millionnaires hommes d'affaires privés. Et donc ça aussi, c'est un élément important sur lequel on peut insister. Néanmoins, ce que je peux dire aussi, par rapport à la question de l'espace politique, c'est que le fait aussi que les nominations que l'on a connues au niveau de l'Union sacrée, ces nominations ont fait donner une perception que les gens de l'Union sacrée, il faut être du Kassai pour pouvoir bénéficier de la mangeoire, comme je l'ai expliqué tout au début. Or, cette perception du rétrécissement de l'espace politique de l'Union sacrée favorise justement les autres qui n'ont pas nécessairement la perception de la concentration d'une seule tribu au niveau de la mangeoire. Et donc ça, c'est vraiment important aussi à souligner que l'espace politique donc de l'Union sacrée se rétrécit, et cet espace, l'autre espace, qui continue toujours à grandir, et cet espace est favorable à toute une série de politiciens, dont Fayoulou, dont Mamouzito, dont Mouskatoumi, s'il se positionne, et aussi dont le FCC.
Professeur, ça sera votre conclusion. Nous sommes à la fin de l'émission. Après 18 ans de gestion, qui pour certains a été chaotique du FCC, quel discours cette plateforme peut tenir aujourd'hui devant les Congolais pour qu'ils adhèrent à leur nouvelle vision?
Ça sera uniquement un discours de changement, parce que ça sera un discours de changement en disant, ben non, nous avons laissé le pouvoir, et le pouvoir, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, et donc ça sera un discours de changement. Et ce discours de changement va pouvoir susciter l'espoir au niveau de la population, et en ayant un discours de changement, je suis sûr que la plupart des politiciens, les gens du FCC, en ayant un discours de rupture avec le passé, pourraient jeter leur dévolu sur les anciens candidats, puisque de plus en plus on entend qu'on regrette la gestion de Kabila, puisque la gestion actuelle semble être plus chaotique que la gestion qu'a laissée Kabila. Alors cette perception, au sein de l'opinion publique congolaise, grandit, et il y a des nostalgiques qui commencent à regretter le fait que le président Kabila n'est plus là, et que ce que l'on a, on arrive à la montée du tribalisme, on arrive à la montée du communautarisme, et qui s'exacerbe et qui devient dangereux pour l'unité même du pays.
Merci.
Et ça, c'est à l'avantage donc du FCC.
Merci, professeur Bob Kabamba. Professeur Dadis Alain, en 30 secondes, votre conclusion. Le FCC peut-il se maintenir et se repositionner face aux enjeux de 2023?
Oui, malheureusement, parce qu'au royaume des aveugles, effectivement, les borgnes sont rois. Et exactement, avec un discours de rupture, un discours un peu des révolutions culturelles, le FCC peut toujours rebondir parce qu'il n'y a pas jusque-là assez mieux d'une façon radicale. Donc je précise, au royaume des aveugles, les bons sont rois. Donc tout est possible dans cette scène politique qui est chaotique.
Christian Moleka, votre conclusion aussi en 30 secondes.
Ma conclusion, c'est que l'avantage que peut disposer Kabila, c'est que pendant son régime, il a incarné, d'ailleurs le nom Chinarambo le donné, il a incarné une sorte d'autocratie de pouvoir fort. Alors aujourd'hui, on sent de plus en plus une sorte de chaos, de fragilité d'autorité, de fragilité d'institution, et donc les gens ont besoin d'ordre et donc d'hommes forts. Et donc, s'il peut incarner cet homme fort qui peut ramener l'ordre, ramener un peu de sérieux dans la stabilité aujourd'hui, il peut revenir comme la solution de la stabilité, parce que ça passe à la stabilité.
Merci Christian Moleka. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté et Sandra Sifa qui ont réalisé cette émission. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa. Supervision Martha Sebujangwe. Présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.